Une création.
Blast.
La logistique, finalement, c'est ce qui irrigue la vie économique, la vie quotidienne. C'est 2 millions d'emplois et beaucoup d'innovation et surtout beaucoup d'utilité. Oh, it's true. It's
true. It's true. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
Le mot qui me vient pour décrire la logistique, c'est ou frénésie ou folie.
Les gens, ils voient juste le camion qui arrive, qui livre, mais ils ne savent pas tout l'acheminement qu'il y a derrière. Et ils ne le voient pas.
Inside édition spéciale.
Tous les jours, ils sont 4600 chauffeurs routiers qui approvisionnent les 22 000 pharmacies, les 3 000 établissements de soins et les 300 grossistes répartiteurs en médicaments, fournitures médicales. Stéphane Baudré, bonsoir. On fait partie de ces entreprises qui sont sur le front, comme on dit, au premier plan, puisque vous aider à approvisionner les pharmacies et les hôpitaux et qu'en même temps on parle de transport routier. Qu'en est-il chez vous?
Alors moi je m'appelle Seydouni Mohamed, je bosse chez Eurotransforma dans le dépôt de Moussy-le-Neuf dans le 77.
Alors je m'appelle Ndiaye Abdoulaye, je travaille à Eurotransforma. On fait partie des métiers essentiels, on sait que c'est des colis qui sont destinés aux malades, c'est pas des bonbons. C'est des gens qui feront le boulot quoi qu'il arrive. Voilà, parce que c'est dédié à la santé et on ne peut pas laisser les gens malades dans la galère. Le transport pharmacie, cela n'a rien à voir avec le reste. On a des produits qui ont une durée de vie de 24 heures. On doit adapter les véhicules, on doit s'adapter tout de suite. Il faut qu'on soit tout de suite opérationnel. La deadline est toujours proche en fait. Et l'urgence médicale, c'est ça. On ne peut pas déconner parce que c'est des produits qui vont dans le sang, c'est des produits qui vont sur des humains.
Notre mission de santé publique est absolument indispensable pour livrer tous les jours les hôpitaux, les établissements de soins. Et je tiens à féliciter tous nos chauffeurs qui, depuis le premier jour, ont eu le courage de livrer tous les établissements de soins pour amener les médicaments et tout ce qu'il faut pour que la première ligne puisse soigner la population.
Pendant le Covid, oui, c'était compliqué, hein, parce que moi, j'étais en première ligne. Donc les livreurs, les chauffeurs-livreurs allaient livrer sans masque, sans protection, sans rien. Ils me racontaient un peu ce qu'ils voyaient et c'était horrible. Ils n'étaient pas préparés. Ils allaient dans les services pharmacie pour livrer les colis et ils ouvraient les portes, ils voyaient les corps dans les sacs mortuaires. Et là, c'est là où je me suis dit, vraiment, là, quand même, on est en danger. Ils s'entêtaient à nous dire qu'il n'y avait pas de masque, mais nous, on ne pouvait plus continuer. On ne pouvait plus livrer. On mettait en danger nos familles, on mettait en danger un peu tout le monde. Certes, oui, il y avait une pénurie, mais il fallait nous classer aussi dans les urgences. Parce que si nous, on ne livre pas, les urgences ne fonctionnent pas.
Malgré tout, on l'a fait, le travail. À cette époque-là, on n'a pas voulu faire grève parce qu'on a voulu apporter notre effort de guerre, comme il avait été bien dit à l'époque, même si on avait toutes les opportunités de faire un droit de retrait. Hein. On n'était pas en sécurité. Beaucoup sont tombés malades à cette époque-là.
On est là, ça va durer, je pense. Hein. Alors, pendant que le président, il fanfaronne, hein, on l'a tous vu, M. Baudry, à BFM TV. Je suis fier de mes salariés, il nous a dit même. Et la reconnaissance de l'autre côté, elle est où? Quasi inexistante. 500 euros pour les conducteurs et 250 euros pour le reste.
Et ça a montré la dépendance de nos modes de vie en société envers ce genre de secteur, la logistique, qui était une dépendance qui existait déjà avant, mais qui est devenue flagrante avec la crise sanitaire.
Lorsque j'étais en livraison, j'avais même des merci monsieur, merci, bravo. Et puis aujourd'hui, c'est loin tout ça. Aujourd'hui, on le voit que la reconnaissance, elle n'est plus au rendez-vous. Hein. Et sans parler que de la reconnaissance financière. la reconnaissance du travail accompli, en général. Parlant de notre direction, hein, mais ça, j'allais dire, on est habitué, mais même par les usagers, nos concitoyens, pendant le Covid, c'est merci, merci, bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, on a le malheur de se garer en double fil, malgré que les gens voient qu'il n'y a pas de place, que le camion est bien sigraphié urgence médicale, bah, c'est des coups de klaxon, c'est des insultes, voilà.
Les gens, ils savent pas ce qu'on vit. Ils ne savent pas les galères qu'on subit, les embouteillages. T'arrives chez le client, il est grincheux, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Même des fois, ils arrivent chez les clients, bonjour, ils l'ont pas. Donc, les gens, ils voient juste l'aspect, le camion qui arrive, qui livre, ouais, c'est bon, j'ai ma commande, c'est bon, c'est... Mais ils savent pas tout l'acheminement qu'il y a derrière. Ils le voient pas. Ils voient pas toute la souffrance qu'il y a derrière, toutes les galères. Ne voyez pas le livreur comme il est. Essayez de voir ce qu'il vit. Il est là depuis je ne sais pas combien d'heures. Des fois, on a des clients, on les appelle. Oui, est-ce qu'il peut me livrer à 19h, à 20h? Je dis, madame, le chauffeur, il commence à 5h du matin. Vous imaginez, si vous attend vous jusqu'à 19h? Oui, mais moi, je travaille, hein, bien sûr, mais le chauffeur aussi, il bosse. Voilà les réponses qu'on a. Hein. C'est réel, hein, ce que je dis là. Et vous voyez la personne arriver, ne pensez pas que c'est un robot. C'est un humain.
J'ai choisi ce métier, j'ai choisi surtout d'y rester parce que je trouve que c'est valorisant. C'est pas n'importe quoi qu'on livre, ça reste usant quand même. La fatigue psychique, un peu la monotonie de la route parfois, c'est pas évident pour le poignet, le dos, les genoux, les articulations en général. Ce sont des métiers usants, faut pas le croire. On fait pas mumuse au volant de nos camions. À la retraite, je pense que je vais essayer de m'arrêter avant parce que je pense pas qu'il me restera beaucoup d'années après ma retraite. Ouais, j'aimerais arrêter à max 55 ans, on va dire. Je pense que c'est un âge raisonnable où il nous reste encore un peu de santé pour profiter de sa famille. On en a des exemples. Hein. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Un ancien collègue, pas dans cette boîte-là, mais dans la boîte précédente. Un ancien collègue qui était fier de lui, qui était content, qui nous charriait un lundi matin en nous disant « Allez, les petits cons, vous allez travailler pour moi. À la fin de la semaine, je suis en retraite. C'est fini. » Eh ben, le mercredi, pas de nouvelles. Le jeudi, pas de nouvelles. Je commence à m'inquiéter, je prends des nouvelles. Mais en fait, c'est tout simplement pas réveillé. À une semaine de sa retraite, il a même pas goûté, il l'a même pas senti. Et ça, c'est du réel.
Esclave quand t'es précaire, salaire de deux mères, je suis le rameur dans la galère. Même les gens qui bossent aujourd'hui crèvent la dalle. Cette histoire va finir façon germinale. Car l'ennemi aujourd'hui c'est pas seulement le patron. Faudra kicker Goldman Sachs pour la révolution. Comme Rambo, je finirai la mission préparateur de commandes. Je vais encore faire un carton. Ouais, c'est Patrick. Faut que tu m'écoutes sur ton Fenwick. Usine musique.
Nous étions à une époque plus de 700, 720 salariés. Aujourd'hui, on est à 400 salariés. Les chauffeurs VL, véhicules légers, ne sont pas remplacés, mais sont remplacés par la sous-traitance. Et ça, on le voit concrètement sur le terrain. On estime à peu près à plus de 70% de sous-traitance. Et les contrats qu'on a, hein, c'est des contrats avec les plus gros labos du monde. Hein. Les plus gros, les plus grands sont chez nous. Quand on demande de l'argent pour les salariés, ben, il n'y en a pas. Mais quand c'est pour racheter d'autres boîtes, bizarrement, il y en a. Quand on tient à son bébé, ben on s'en occupe soi-même, quoi, quand on a la possibilité de le faire. À vouloir faire des économies en passant par la sous-traitance, il n'y a pas le même suivi qu'on peut avoir en interne, de s'assurer avec certitude que tout le monde est bien formé, que tout le monde fait bien le travail. Les chauffeurs, lorsqu'ils sont formés, il n'y a rien qui me garantit que c'est bien le chauffeur en question qui a fait la formation pour lui, que c'est pas un collègue qui l'a fait pour tous les autres, un nouveau sous-traitant qui arrive, qui a exercé au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui vient me demander comment se règle le frigo du camion, ben voilà, là ça me pose problème.
Je m'appelle David Gaborio, je suis enseignant-chercheur en sociologie, et ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille sur le secteur de la logistique. La sous-traitance, d'abord, ça peut être à plein d'échelles. Donc, c'est la sous-traitance entre entreprises, donc la concurrence entre entreprises sous-traitantes qui vont se concurrencer les unes avec les autres. Donc, ça va baisser, tendre à baisser les conditions de travail, à dégrader les conditions de travail, les conditions de salaire aussi. Et puis ensuite, la sous-traitance, c'est aussi le recours à l'intérim, de sous-traiter à des entreprises d'intérim la gestion de la main-d'œuvre. Et jusqu'à d'autres niveaux, parfois, on voit le niveau un peu ultime qui est le sous-traiter à des auto-entrepreneurs. Je pense par exemple à la livraison des colis chez Amazon. Donc si on reconstitue la chaîne, on peut se retrouver avec un grand acteur de la grande distribution, Carrefour par exemple, ou Jiffy, bon, qui va sous-traiter à un entrepôt logistique les activités logistiques. L'entrepôt logistique va lui-même sous-traiter à une autre entreprise la livraison, qui va elle-même sous-traiter à des auto-entrepreneurs le fait de conduire le camion. Donc il y a des niveaux comme ça de sous-traitance qui produisent beaucoup donc de concurrence et donc de dégradation, et ensuite aussi qui cassent les collectifs. Dans l'entrepôt, on se retrouve avec plein de travailleurs qui viennent d'entreprises différentes, qui vont avoir des contrats différents, des conditions de travail très différentes. La sous-traitance, c'est vraiment une arme de déstabilisation des collectifs de travail. Même si à côté de ça, si on veut rajouter un côté positif, il y a quand même des luttes aussi qui se développent dans les entrepôts logistiques. Et ces dernières années, on voit, alors c'est pas du tout massif, mais on voit à plein d'endroits émerger des luttes dans les entrepôts logistiques qui montrent un peu qu'il y a une cocotte minute dans le secteur, qui est pas encore peut-être prête à exploser, mais qui est là. Il y a quand même une conflictualité assez forte qui émerge ces dernières années.
Au début, ça se passait relativement bien, mais bon, rapidement, j'ai vite vu l'envers du décor. J'ai eu beaucoup de mal à supporter le management, avec un côté très hypocrite. Il faut savoir que c'est vraiment un management un petit peu à l'américaine. Enfin, en tout cas, c'est un mode de management qui a été importé des États-Unis, vu que Amazon est une entreprise américaine. Donc, c'est un management qui est, voilà, pseudo bienveillant, c'est-à-dire qu'en gros Amazon, en fait, tout le monde se tutoie, c'est-à-dire qu'on peut tutoyer le directeur du site, les RH, les managers, etc. Ça vend un peu du rêve, quoi, avec un aspect un peu égalitaire où tout le monde est pareil, sauf qu'en fait, on se rend compte que ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que moi, cette période d'intérim, il y a eu des moments où il s'est passé des choses que j'ai pas appréciées au niveau de mes conditions de travail. Et le fait d'en avoir parlé, enfin d'avoir remonté ça à mes managers direct, en fait, on avait le droit de s'exprimer quand tout allait bien. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, hop, c'est non, faut pas en parler. Ou alors direct, on est contredit. Ah ben non, tu peux pas dire ça. Il y avait un côté vraiment une mise sous pression un peu permanente, quoi, de la pression sur la productivité, parce que en fait, quand on prépare des commandes, notre productivité elle est mesurée. Donc je trouvais ça vraiment psychologiquement dur, qu'on soit suivi un peu à la trace sur, grâce à notre scanner, quoi, parce que le scanner, en fait, il suit tous tes mouvements dans la journée, il sait exactement où t'es allé à tel endroit, et même quand on s'arrêtait, des fois, comme dans tout travail, il y a des moments où on pouvait s'arrêter quand on croisait un collègue dans le stock, on discutait deux minutes, parce que on reste des êtres humains, quoi. On n'est pas des machines. Moi, j'estimais qu'on avait le droit de se dire bonjour, à un collègue et puis lui demander comment ça va, etc. Et même ça, on m'avait fait des reproches. Ça faisait partie des choses qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à supporter, quoi.
À un moment donné, c'est prenant, mais c'est pas le travail, c'est vraiment le management, en fait, qui est stressant. Parce que le travail en soi, il est dur. Bon, voilà. Mais c'est l'ajout du management, du harcèlement managérial, de délation entre travailleurs, de tous ces petits trucs à côté du travail en lui-même qui fait qu'en fait, c'est le boulot devient dur. Ils arrivent à que les salariés, ils se balancent les uns et les autres. Ouais, j'ai vu tel qui a fait ça, tel qui a parlé. Ils incitent à ce que les salariés les plus dociles tendent vers ça, vers la délation.
Livrer ce dont les gens ont besoin est important. Aujourd'hui, plus que jamais. À vous tous, employés d'Amazon, dans les entrepôts et au volant, nous voulons dire merci. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre santé et votre sécurité. Aujourd'hui, votre travail est irremplaçable. Merci.
Hard work, have fun, make history. C'était Asri pendant pas mal d'années. Et je sais pas, si je crois que c'est avant le Covid ou après, ils l'ont enlevé. Bizarrement. Ça a une connotation qui a plus de valeur. Le fun, oui, des gâteaux, des trucs, des glaces. Ouais, voilà, on n'est plus des gamins, quoi. Tu sais, on parle beaucoup d'écologie washing, green washing. Ben, eux, ils sont une fausse bienveillance, en fait. Bienveillance washing. Donc, on nous donne des points, des goodies. C'est, voilà, c'est... J'en rigole, mais voilà, c'est ils nous infantilisent.
Ils disent qu'avec 80 000, ils sont passés où, les 80 000 ? Ils ont rêvé, ouais. Ouais, ils ont... Peut-être c'est 8 000, en fait. Là, ils vont avoir des départs.
Mon directeur est un ancien de la Marine nationale. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Il y a même un service qui s'appelle Military. En France, on tend beaucoup vers ça. Dans l'histoire, la logistique est née dans l'armée, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, comme eux, ils ont cette culture-là, eh ben, ils tendent à prendre des cadres, des directeurs de site, des chefs qui ont déjà fait l'armée. Dans mon entrepôt, au mois de juillet, un salarié qui était en arrêt maladie est rentré avec une arme blanche. En fait, une de ses copines avec qui il travaillait est morte suite à, apparemment, de ce que lui juge, parce qu'il y avait trop de pression, elle était épileptique et tout ça, et dans le management, ils n'ont pas pris ça en compte. Et donc, cette pauvre fille, elle est décédée. C'est dur à parler, parce que là, vraiment, c'est prenant. Ça reste un collègue et une collègue. Que ce collègue se retrouve sur le banc des accusés, parce que ce qu'il a fait, c'est... Voilà, il est quand même rentré dans l'entrepôt, il a cassé des choses, il a menacé des salariés. C'est dur, mais il y a beaucoup de salariés qui le comprennent. Et c'est là que ça devient un peu... presque paranormal, on va dire. On a eu deux cellules psychologiques. Après, bah, c'est redevenu comme avant. C'est show must go on, quoi, comme disent certains artistes. Comme si rien ne s'était passé. Quand le mal est fait, seulement l'entreprise commence à réagir. Alors qu'elle sait très bien comment ça se passe. Elle sait très bien qu'il y a des problèmes, que ce soit d'ordre mental, psychologique, douleur physique. Mais ça passe. Tant qu'ils tirent sur la corde, tant que tout va bien, bah, il continue.
Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre santé et votre sécurité. Aujourd'hui, votre travail est irremplaçable. Merci.
Aujourd'hui, en fait, dans les entrepôts, il y a beaucoup de subjectivité conflictuelle. Donc les gens se représentent comme des ouvriers, se défendent, il y a des solidarités entre ouvriers. Et pour autant, il n'y a pas beaucoup de syndicalisation. C'est seulement 4% de syndicalisation en France des ouvriers de la logistique, c'est faible. Hein. Ailleurs, dans les mondes ouvriers en général, c'est 10% de syndicalisation. Et si on cherche pourquoi, il y a plein de raisons à ça. Et les premières raisons, elles sont d'abord du côté de la structuration du secteur. C'est un secteur qui est très éclaté, en plein de petites unités. Des entrepôts logistiques, c'est pas comme l'énorme usine automobile de Renault. C'est souvent 50, 100 personnes qui travaillent, parfois 200 pour les gros entrepôts. Et c'est très rarement au-dessus des 1000, 2000. Il y a vraiment que dans les gros entrepôts du e-commerce comme Amazon, mais d'autres aussi, qu'on voit ça, quoi. Et cet éclatement, ça rend toujours la syndicalisation plus difficile. Plus une unité est petite, moins il y a de syndicalisation. C'est presque mathématique. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'intérim. C'est le secteur qui a le plus recours à l'intérim. Un quart de la main-d'œuvre, c'est très élevé. Plus largement, beaucoup de turnover. C'est des métiers où les gens n'ont pas envie de rester. Alors malgré tout, il y en a qui restent assez longtemps, hein, mais ils n'ont pas envie de rester. Et quand on n'arrive pas à se projeter dans un secteur, c'est difficile de se dire qu'on va y faire du syndicalisme. Et puis dernière chose qui est vraiment importante, c'est qu'il y a des répressions antisyndicales qui sont fortes dans les entrepôts. Comme c'est un monde ouvrier assez rude, il y a aussi des formes de répression qui sont rudes dans les entrepôts logistiques. Donc quand on voit du syndicalisme apparaître, il peut être combattu assez durement par certains grands groupes, et notamment les très grands groupes de la logistique sont connus pour leur répression antisyndicale.
Chez Amazon, en tant que syndicaliste, on est comme une éponge. On ressent les émotions, mais à un moment donné, on est humain, quoi. Donc à un moment donné, surtout quand je vois des jeunes qui ont presque le même âge que mes enfants, je dis voilà, j'aimerais pas que mes enfants se retrouvent à pleurer ou psychologiquement, il y a des gros problèmes. C'est dur, c'est très dur psychologiquement, parce que au-delà de ça, syndicaliste, on est surveillé, on est fliqué plus que les autres. On a un mandat qui nous protège, ça faut se le dire, mais ils savent appuyer là où ça fait mal. Et des fois, voilà, moi, une fois, bah, j'aurais pas dû. J'ai traité un de mes managers de fou. Alors que c'est lambda, quoi. Parce que voilà, il allait trop loin. Bah, tout de suite après, j'ai été convoqué. Et, on me dit, oui, Habib, pourquoi tu as traité ton manager de fou? C'est pas bien, ceci, cela. Mais ça marche que dans un sens. Je vais faire un peu le jeune. Quand eux, ils font des dingueries, tout va bien pour eux. Quand le code du travail va dans leur sens, là, il n'y a pas de problème. Là, ils savent te convoquer pour un entretien, une sanction disciplinaire. En gros, ils essaient de me pousser à bout pour qu'on craque, en fait, pour qu'ils trouvent une excuse, si on peut dire une excuse, ou une raison pour nous licencier.
C'est vrai que le e-commerce, je pense que c'est un modèle qui génère beaucoup de problématiques, que ce soit humaines, environnementales, etc. Pour moi, c'est un modèle qui n'est pas durable, et je dis ça alors que j'y travaille, mais bon, c'est le fond de ma pensée. Le principe des entreprises comme Amazon, c'est d'arriver à essayer de se rendre indispensable. Ça a écrasé un petit peu pas mal le commerce de proximité, les librairies et tout. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui commandent des choses qu'ils ne puissent pas trouver ailleurs parce qu'ils sont dans des endroits isolés où il n'y a pas forcément ce qu'il faut. Mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi qu'ils aient conscience de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire en termes de conditions de travail ou même en termes environnementaux, parce qu'eux aussi, ils peuvent avoir leur rôle à jouer, que des entreprises comme ça arrêtent cette surexploitation, quoi. Des humains et puis de la terre, enfin de tout, quoi. Il y a des moments où j'ai un peu du mal à voir l'utilité de mon travail, surtout que au final, j'ai un peu l'impression de faire un truc qui a pas de sens et d'être juste le maillon d'une chaîne. Donc c'est compliqué un peu d'y trouver du sens.
Comme les subjectivités sont très fortes, mais que parfois il ne se passe pas grand-chose, il y a cet effet cocotte-minute où quand ça ressort dans la logistique, quand le conflit émerge et se formalise avec une grève par exemple, souvent la grève elle est très forte. Donc on voit émerger des grèves fortes, majoritaires. Parfois des grèves aussi, et ça c'est assez fréquent, avec des blocages, des gens qui bloquent l'activité de l'usine, donc avec des formes d'action directe. Dans le champ des luttes ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la logistique, avec cette idée que la logistique était devenue un point central stratégique du capitalisme. Et donc si on veut bloquer l'économie, il faut bloquer la logistique. Donc il y a eu plein de manières de le faire, les gilets jaunes l'ont fait, le mouvement social l'a fait.
Les camions entrent, mais ne sortent pas. Une cinquantaine de gilets jaunes, une dizaine de policiers, ambiance bon enfant. Mais hier soir, en bloquant le centre logistique de la filière transport routier de la SNCF, les gilets jaunes essayent une nouvelle stratégie.
Il vaut mieux bloquer du fret que des personnes en voiture, quoi. C'est plus sympa et moins embêtant pour les gens, quoi.
Bon, et c'est plus efficace.
Et c'est plus efficace, oui. Au niveau des finances, quoi.
Les patrons, ils comprennent qu'avec une grève, le dialogue, ça n'existe pas. Tu lui touches le portefeuille, là, ils vont céder. Ils ont un chiffre d'affaires, 11,3 milliards d'euros en 2024. Ça veut dire l'argent, ils ont. Mais pour les salariés, rien, surtout sur les conditions de travail. Et ils ne respectent pas. Et nous-mêmes, on a fait une grève de 2025, là, de 3 semaines. Ça n'a rien pour eux, c'est un prix de baguette pour eux. C'est pas la première grève qu'on a fait, c'est la 4e grève qu'on a fait chez Geodis. Tout le monde, ils sont mis en grève, même les chefs qu'ils ont mis en grève chez nous.
Alors on est dans le port de Gennevilliers, devant chez Geodis Calverson, qui est une filiale de la SNCF et qui a généré beaucoup de profits, surtout depuis le Covid. Et en fait, les salariés, 87 salariés se sont mis en grève, majoritairement des salariés de la plateforme, car ils travaillent dans des conditions qui sont terribles, dans le froid. Déjà, c'est de la manutention. Ils travaillent dans le froid, ils travaillent avec des animaux vivants, avec des matières dangereuses, et la plupart sont payés au SMIC. Donc, on a alerté notre direction depuis le mois de septembre qu'il fallait rouvrir les négociations, les NAO, par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas entendus. Donc les salariés ont décidé de s'organiser et de se mettre en grève. Il n'y a que ça qui fonctionne, malheureusement.
Si tu luttes pas dans cette vie, tu vois rien du tout. Il faut lutter pour obtenir quelque chose. Déjà, on a gagné la dignité. Parce que la dignité, c'est très important avant l'argent. plus on a gagné sur le salaire. 150 euros brut par salarié. On était dans le dépôt, personne qui connaît ça. Quand on est sorti pendant la grève, on était visible, on a connu beaucoup de monde. On était invisible et maintenant on est visible. Tout le monde y connaît qu'est-ce qui se passe.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
L'été au Sibir, il faut choisir.